Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver et de retrouver une fois de plus François Medellin. C'est déjà la troisième fois qu'on te reçoit. Ce soir, c'est pour la résistance des matériaux aux éditions de la Manufacture de Livres et on reçoit également Marianne Lacoma, qui en est un petit peu le couteau suisse aussi, on peut dire ça.
Oui, ça me va, ça me va.
Voilà, voilà.
Ça va de l'émission.
Voilà, de la maison. Alors évidemment, on connaît déjà François Medellin pour ceux qui suivent déjà ses rencontres, mais mine de rien, certains autres ne te connaissent pas encore. J'aimerais que peut-être Marianne te présente, étant donné que tu es là. Marianne, c'est peut-être un bon exercice aussi pour voir comment tu envisages François Medellin au sein de la maison, puisqu'on sait qu'il a, on parlera tout à l'heure de ses différentes casquettes, et notamment de cette double casquette d'écrivain. On y reviendra juste après, mais comment tu vois l'écrivain François Medellin, puisque l'homme, on le connaît aussi, vous le retrouverez à Quai du Polar en bonne compagnie.
Eh bien, François Medellin, c'est, comme nous aimons à le signaler, le premier des Mohicans de la manufacture de livres, c'est-à-dire un auteur que Pierre Fourniaud a rencontré par Facebook, je crois, à l'époque, enfin, voilà, a découvert la maison sur les réseaux sociaux et qui donc a envoyé un manuscrit à Pierre. Et c'est une histoire de longue durée maintenant, puisque en quelle année t'as publié La Résistance, La politique du tumulte? C'était
En septembre 2012,
2012, voilà,
en
c'est ça.
octobre.
Donc alors, c'est pas le premier livre de la maison, mais en tout cas, l'un des premiers. Hein. Et voilà, enfin, c'est vraiment un auteur emblématique et historique de notre catalogue. Et puis, au-delà de ça, François Medellin, c'est aussi lui qui vient monter nos étagères, porter nos cartons pendant les déménagements, nous accueillir quand on passe dans la Drôme et que nous avons besoin d'un endroit où dormir. Donc voilà, enfin, c'est un pilier à tout point de vue de cette maison d'édition. Et voilà, une longue histoire de collaboration à la fois littéraire, musicale, bon, voilà, comme il y en a dans l'édition, et on espère que ça durera encore longtemps.
On t'a déjà reçu pour Les Larmes du Reich, qui était sorti chez 10-18 il y a à peu près un an, en poche. Et on t'a aussi reçu pour L'Ange Rouge, qui était à la Manufacture de Livres. Là, ça fait donc 2-1 pour la Manufacture de Livres, puisque tu bascules, tu es dans une autre casquette, une casquette politique que tu connais particulièrement bien, puisque tu y as travaillé quelques années et que tu y as été plume notamment. J'aimerais que tu nous parles de ces deux. Ces deux matières cérébrales d'écrivain. D'un côté, un écrivain qui, tu nous l'avais dit, pour certains lecteurs, te trouvait que ça manquait peut-être d'émotion, que c'était différent de ce que tu écrivais à la manufacture de livres. À la manuf, j'ai l'impression que tu te lâches totalement. Ces deux cerveaux-là, ces deux cerveaux d'écrivain, comment tu pourrais les définir dans ton quotidien?
Je le dis tout le temps, mais je le redis, enfin, c'est lié à mon signe astrologique, je suis vierge. Donc, j'ai la vierge folle à la manufacture de livres et la vierge sage chez 10-18. Mais pour le dire autrement, j'ai des polars et des thrillers politiques très vitaminés et très testostéronés, je pense, à la manufacture de livres, où je me permets tout. Et puis, j'ai des polars historiques qui sont un petit peu plus grand public, je dirais, et peut-être plus faciles d'accès aussi, quoique je ne suis pas certain. Chez 10-18, où je m'impose quand même plus de contraintes par rapport notamment aux lecteurs et aux lectrices. Je sais en les écrivant qu'il faut que ce soit plus accessible. Donc ça, c'est mes polars. Mes polars historiques. Et après, je pense qu'aussi le fond correspond un petit peu, enfin la forme correspond un petit peu au fond, quoi. Donc mes polars et mes thrillers à la manufacture de livres sont beaucoup plus irrévérencieux, voilà, beaucoup plus critiques du genre de par la forme, puisque quand j'écris, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Je dis toujours que j'écris pour écrire plus que pour raconter des histoires. Enfin, je raconte aussi des histoires, mais ce qui prime chez moi, c'est l'écriture. Et donc, j'aime bien jouer un petit peu aussi. Ça fait deux styles différents, même si mes lecteurs et mes lectrices fidèles me disent qu'ils me reconnaissent au bout d'une page. Même sur mes polars, ouais, ils savent que c'est moi. Et puis j'aime bien me renouveler à chaque livre, donc ça me fait des défis. Je change un petit peu de registre et j'aime bien faire ça. Voilà. Écrire, je suis pas certain de pouvoir écrire 20 fois le même livre ou rester 20 fois avec le même personnage. Il faut que je m'en remette.
Après, moi, si je peux ajouter, je pense qu'il y a aussi. Je te laisse parler, Anthony, vas-y.
Pardon, vas-y,
Tu
j'ai dit.
disais juste. Ah oui. Je pense qu'il y a aussi dans l'écriture de François Médéline toujours un peu une part de défi et de challenge. Et que ce qu'il aime bien, c'est tester des choses, effectivement ne jamais écrire le même livre. Et cette collaboration avec 10-18, elle est née aussi de la rencontre avec Elsa Delacher, qui était l'éditrice qui avait publié les livres de François Médéline chez Point, qui elle est partie chez 10-18, où elle s'est retrouvée en charge donc, de cette collection dans laquelle il y avait beaucoup de romans historiques, et où elle a proposé à François voilà, de s'essayer à ce genre-là. Et je crois que le roman historique, c'était quelque chose dans la gamme du roman noir et du roman policier, c'est quelque chose que François n'avait pas encore testé. Et voilà, ça a été un petit peu l'occasion de s'essayer à cette catégorie de roman noir, parce que, alors, OK, il y a les romans politiques à la Manufacture et les romans historiques chez 10-18, mais moi je trouve que vraiment, de livre en livre, François fait aussi, ne cesse de faire des tests littéraires, ne cesse d'aller surprendre son lecteur pour aller un petit peu plus loin dans sa démarche d'écrivain, quoi. Donc c'est ça qui est assez passionnant avec lui quand on lit l'intégralité de ses livres, c'est de voir que. Je pense qu'il s'amuse aussi avec sa plume qu'il a facile et extrêmement inventive.
Ouais,
Enfin, facile, je ne sais pas, ça se trouve, il souffre énormément en écrivant, mais ça,
oui.
c'est lui qui vous le dira.
Ouais, je pouvais pas dire tout ça, donc c'est mieux que ce soit Marianne qui le dise.
On sent les choses quand tu écris un roman politique. Donc celui-ci, par exemple, en effet, on a l'impression que tu t'es véritablement amusé, éclaté, et en même temps, tout est réel. Malheureusement, tout est réel. On a en tout cas une grande partie des faits. La trame narrative, la trame historique est réelle, la trame politique est réelle. Et on est un petit peu toujours effaré de revisiter le passé et de se dire à quel point ça a vraiment existé. Un homme politique a donc affirmé qu'il n'avait pas de compte en Suisse, droit dans les yeux. On pense évidemment à Jérôme Cahuzac. Mais pour le coup, on est frappé, en fait, quand on te lit, parce que le monde politique va très vite. On oublie souvent, on oublie beaucoup les hommes politiques. J'avais oublié l'existence de Jean-Marc Ayrault, tu nous l'as fait un petit peu sortir du tombeau. Tu as des mots très justes à son égard, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que comment tu vis les choses en tant qu'écrivain sur un roman politique qui manie, qui est là, qui anime des faits, clairement, il y a des faits politiques tous les jours. Mais en tant qu'écrivain, comment tu malaxes cette matière politique en la transformant en littéraire?
Très difficilement, déjà, c'est pas du tout facile. C'est vraiment le livre sur lequel j'ai travaillé le plus longtemps. Je crois que c'est quand même mon livre le plus ambitieux. Il y a trois personnages principaux. Donc, déjà, faut gérer les trois personnages. Et puis après, il y a des documents encarts, comme on peut le retrouver dans la littérature américaine. Donc, j'ai des coupures de presse. J'ai des écoutes téléphoniques, j'ai des enregistrements d'émissions radio, télé, et en fait, il a fallu imbriquer toutes ces briques en fait de réalité. Peut-être je prends des briques de réel et je construis une espèce de mur, et en réalité, rien n'est réel, tout est fictif dans le livre. Mais le jeu, et c'est là où je m'amuse pour le coup, c'est d'essayer justement de donner une illusion de réalité. C'est le jeu avec le lecteur et les lectrices. Ouais. Il faut que quand on lit, on se dise, mais ça s'est réellement passé comme ça ou ça ne s'est pas réellement passé comme ça. C'était vraiment ça le défi tout le temps, de rester parce que j'écris de la littérature réaliste, quoi. C'est du roman noir. Donc, il faut que ce soit plausible. Voilà. Donc, je me suis. J'ai vraiment. Ça m'a pris 3 ans. Ouais, ça fait longtemps que j'ai le bouquin en tête. En fait, j'ai commencé à l'écrire dès 2012, je pense, dans ma tête. J'ai toujours voulu traiter cette affaire dès qu'elle est sortie. Et après, c'est vraiment le bouquin où j'ai le plus travaillé en amont pour préparer l'intrigue. Et puis. En aval aussi, puisque il a fallu écrire, réécrire. J'ai beaucoup coupé. J'ai coupé 120 000 signes de la V1. C'est une centaine de pages. On parle en signes, les romanciers, les romancières. Voilà, j'ai quasiment enlevé après 100 pages. Et c'était quand même un défi de bah, que tous les. Que tout, que, en fait, c'est une toile d'araignée, ce bouquin, et que tous les fils tiennent entre eux, quoi, jusqu'à l'aboutissement, la chute finale. Qui repose quand même sur l'un des personnages principaux, peut-être le plus attachant du bouquin, qui est ouais, une députée, une jeune députée lyonnaise qui s'appelle Djamila.
Kassem peut-être, ou en tout cas il y a des Roland qui pourraient faire penser que tu t'es inspiré de différents, peut-être différents hommes et femmes politiques. Comment tu t'inspires finalement? Est-ce qu'il y a peut-être plusieurs hommes et femmes politiques à l'intérieur de tes personnages? Est-ce que tu as pioché dans certains traits de caractère, peut-être traits physiques, certaines manigances? Est-ce que tu pioches finalement dans tous les personnages ainsi ou pas?
Alors, Najat, c'est un peu compliqué parce que j'aurais dû être sa plume. J'ai même fait un entretien d'embauche dans son bureau et j'ai refusé, c'est moi qui ai refusé de sa plume. Non, alors, c'est un personnage quand même plutôt positif dans le bouquin, mais j'ai pas eu de retour de lecture de sa part. Je connais très bien l'un de ses collaborateurs politiques, voilà, qui s'appelle François, d'ailleurs, comme moi. Donc, je suis un peu gêné si on me dit c'est Najat. Après, ça. Le personnage peut évidemment faire penser à Najat Vallaud-Belkacem, mais en fait, je l'utilise plutôt, j'en ai conscience quand je le fais, je suis un peu de mauvaise foi, mais j'utilise en fait c'est ce que je disais, en fait, pour être plausible dans les techniques d'écriture, j'essaie de. En fait, il faut créer des illusions de réel. Donc, pour créer des illusions de réel, c'est plus facile si l'électrice et les lecteurs pensent à un personnage réel. Donc, je vais prendre des éléments. Je vais dire, tiens, elle est, c'est une jeune femme politique lyonnaise, elle est issue de l'émigration, comme on dit. Bah, ça veut dire en fait que les gens, 99% des gens, la voient que comme une arabe, en fait, dans une société française structurellement raciste. Et en fait, elle est vice-présidente de la région Rhône-Alpes. Donc, tout de suite, ça fait penser à Najat et ça fait une accroche en fait, par rapport au réel. Et les lectrices et les lecteurs se disent, ah oui, ça s'est passé comme ça. Puis après, le livre évolue, on se dit, tiens, c'est peut-être plutôt Rachida Dati, en fait. Alors, il faut faire gaffe parce que le seul point commun qu'elles aient, c'est qu'elles ont des aïeux, je pense, qui sont d'Afrique du Nord. Mais c'est vrai que j'utilise ces éléments-là pour qu'il y ait des illusions de réalité. Après, oui, sur le personnage principal dans le bouquin, moi, il s'appelle pas Cahuzac, il s'appelle. Donc, c'est l'affaire Cahuzac, hein, c'est librement inspiré de l'affaire Cahuzac, qui s'appelle Ruggeri. Je pense qu'on peut. Enfin, alors, là, je l'ai fait objectivement, j'ai fusionné trois personnages de la vie politique française, que sont donc Jérôme Cahuzac, Gérard Collomb, Emmanuel Valls, puisqu'il est ministre de l'Intérieur, mon personnage. Comme Manuel Valls à l'époque, ancien maire de Lyon, comme Gérard Collomb, et il a un compte au Luxembourg, à peu près comme Jérôme Cahuzac qu'il avait en Suisse. Donc voilà, non, je pense que sur le personnage de Ruggeri, oui, c'est volontaire et c'est peut-être pour me payer, entre guillemets, des hommes politiques, ou en tout cas analyser leur comportement et le fonctionnement de la vie politique. Et puis après, sur les personnages totalement fictifs, voilà, j'utilise des éléments de réel justement pour que le pacte avec l'électrice et les lecteurs de crédibilité fonctionne. Avec mon premier bouquin, par exemple, j'avais un type qui s'appelait Le Vieux et tout le monde, c'était un barbouze de la République, tout le monde avait pensé à Focard. Alors j'avais pris des éléments du Monsieur Afrique, du Monsieur France-Afrique, mais c'était pas Focard en fait dans le bouquin. Et là, du coup, non, c'est pas Djamila n'est pas Najat. Elle n'est pas Rachida Dati, mais il y a pas mal de retours de lecture qui. Alors, il y a des gens qui me disent c'est Najat et j'ai d'autres personnes qui me disent c'est Rachida. Personne m'a dit tiens, c'est un peu les deux. Voilà. Et ce qui est super étrange, en tout cas, c'est qu'au moment où le bouquin sortait, Cahuzac annonçait son retour en politique et Rachida Dati était nommée ministre de la Culture. Donc c'était étrange, en fait. J'avais fait un peu ressortir ces deux personnages par de la fiction et en fait ils revenaient sur le devant de la scène politique, comme quoi, a posteriori, le titre n'était pas si mal choisi.
Quel est justement ton regard sur la politique? Parce que c'est un livre extrêmement, entre guillemets, dur et violent contre les hommes et les femmes politiques, mais en même temps, c'est la simple réalité des choses. C'est rare qu'on ait ce genre de roman où les hommes politiques et les femmes politiques sont autant mis à mal. Quel est ton regard justement, étant donné que tu y as travaillé? On a l'impression quand même qu'on tourne aussi en boucle depuis de nombreuses années sur les affaires en justice de tous les hommes et femmes politiques. Est-ce que tu considères que ça a évolué? Est-ce que tu considères que la politique reste la politique et que malgré le fait qu'il y ait eu des personnes de la société civile aussi, on a testé, on a pu tester il y a quelques années avec Emmanuel Macron, finalement, rien n'a trop changé. J'aimerais connaître ton véritable regard sur ce qui se passe aujourd'hui et depuis quelques années en politique.
En tout cas, quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas du tout d'acrimonie et l'envie d'un règlement de compte après mes années. C'était pas du tout ça. J'avais plutôt envie d'être réaliste. Et quand je l'ai fait, quand je l'ai écrit, je ne me suis pas rendu spécialement compte que c'était une charge terrible et dure contre les hommes et les femmes qui font la Ve République française. Et d'ailleurs, j'ai des gens qui bossent dans l'univers politique qui ont lu le bouquin. Et qui ne trouvent pas ça si fou, en fait, et si dur que les personnes profanes qui connaissent. En fait, ce monde fonctionne comme ça. Je pense qu'il a toujours fonctionné comme ça. Et que c'est consubstantiel à la démocratie représentative. J'aime bien citer Churchill, c'est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Et c'est à peu près ce que je pense. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que moi, pour y avoir vécu de l'intérieur, pour l'observer, bah, la vie politique est plus dé... enfin, les déterminants de la vie politique sont pas les grands textes, sont pas les grandes idéologies. En fait, on pourrait penser que c'est le cas puisque on va voter pour ça en règle générale, mais sont plutôt les relations interpersonnelles, les relations interpersonnelles et les tempéraments des gens qui font la vie politique. Que c'est ce que j'essaie de retranscrire dans mes bouquins, où on voit qu'en fait, ce qui est important, c'est pas qu'on soit de gauche, de droite, ce qui est important, c'est qu'on déteste, notamment à l'intérieur de son propre camp, parce que c'est un univers où les gens se haïssent très fortement dans le cadre de la conquête, dans la conquête du pouvoir. Donc je suis pas du tout sûr que ce soit une singularité de l'époque, c'est juste que maintenant, on le voit plus. Et puis après, les affaires, entre guillemets, politiques, ça a toujours existé, quoi, depuis le creusement du canal de Panama jusqu'à l'un de mes bouquins. Alors, c'est peut-être pour ça que d'ailleurs j'écris des bouquins sur la politique. Mon vrai livre d'adolescence, c'est Bel Ami de Maupassant. C'est un livre en fait, sur la démocratie représentative aussi. C'est une ascension en fait, dans les hautes sphères politiques de quelqu'un du peuple. Et il y a déjà énormément de scandales, etc. Voilà. À l'époque, quoi, comme maintenant. Alors, ce qu'il y a de spécifique en revanche à l'affaire Cahuzac, c'est que c'est une affaire qui est arrivée en France en 2012, au moment où voilà, les réseaux sociaux, Facebook étaient très installés. Voilà. À 2012, c'est vraiment le début de. En 2008, Facebook. En 2012, voilà, on a les télés en continu, on a les réseaux sociaux, et donc elle a fait énormément de bruit. C'est pour ça qu'elle nous a marqués. Et puis, je pense aussi, on a une personne qui, pendant 121 jours, a clamé son innocence, alors qu'un média avait mis sur Internet une bande-son dans laquelle il disait que ça faisait chier d'avoir un compte à l'UBS, que ce n'était pas la plus planquée des banques, et c'était le deuxième jour en ligne. Donc, c'est ça qui m'a vraiment subjugué dans l'affaire, pour le coup. Ça, c'est une vraie singularité, c'est que pendant. en fait, pendant 121 jours, on va dire, il y a un système politico-médiatique. J'aime pas trop le mot système parce que ça fait conspirationniste. Un réseau politico-médiatique, l'oligarchie, qui a fonctionné pour défendre ses intérêts. Et les intérêts, c'était qu'il soit innocent. Ils étaient mieux défendus s'il était innocent. Donc, j'ai essayé de traiter ça dans le bouquin. Il valait mieux que Cahuzac soit innocent parce que les circuits, en fait, sont des circuits transpartisans et qui concernent aussi les circuits financiers, je veux dire, et qui concernent aussi des super riches français. Donc, pour tout le monde, il valait mieux que tout ça soit, que tout ça s'arrête assez rapidement.
Tu n'es pas à ton premier roman politique. Tu avais déjà commencé avec la politique du tumulte par rapport à Chirac et Balladur. Balladur prend des balles réelles, certaines balles réelles aussi dans le livre.
Oui.
Ensuite, c'est Tuer Jupiter avec Emmanuel Macron que tu décides de faire mourir. Et tu reviens aujourd'hui avec François Hollande et l'affaire Cahuzac. Justement, comment tu as évolué par rapport à ces affaires? Comment tu choisis finalement l'affaire dont tu as envie de t'occuper, même si là finalement tu es Jupiter, il n'y a pas véritablement d'affaire puisque on est véritablement dans la fiction, mais ton système politique d'écrivain, finalement, comment il se tisse, ta toile d'araignée, comment elle se tisse? Est-ce uniquement par le fait d'être choqué par une affaire qui te fait écrire, ou au contraire, quand tu sens qu'il y a un tissu romanesque, c'est ce qui te permet de déclencher l'écriture ou pas?
Les deux, je dirais, en fait, c'est l'affaire me choque et me subjugue, en fait, c'est un sentiment mêlé, en fait, c'est aussi négatif que positif, en fait, je suis ébahi, mais attiré, en fait, en même temps, et sans doute attiré parce que je sens qu'il y a une grosse matière romanesque, donc il y a une grosse matière romanesque dans la guerre Chirac-Balladur, et il y a une grosse matière romanesque dans Cahuzac, en particulier parce que, voilà, de mon point de vue, avec un petit peu de recul, voilà, je pense que la social-démocratie, le socialisme à la française, en fait, est mort en 1983. Il a accédé au pouvoir en 1980. Il est mort 2 ans après, quand on a décidé de, quand le président Mitterrand a décidé d'abandonner son programme. Et après, il a agonisé jusqu'à l'affaire Cahuzac. Ce socialisme à la française a agonisé, et c'est vraiment la fin, voilà, c'est la fin d'une idéologie politique et de ses représentants, cette affaire-là, quoi. C'était pas quelqu'un de gauche, c'était quelqu'un qui était au parti. C'était pas quelqu'un de droite, excusez-moi. C'était pas quelqu'un de gauche non plus, je crois, d'ailleurs. Mais il était au Parti socialiste, quand même, le garçon. Et en fait, il y avait déjà pas mal de reproches sur, vous savez, toutes ces expressions, d'ailleurs bien de droite, sur la gauche caviar, etc. Comme quoi les socialistes s'occupaient plus des pauvres, en fait, les avaient abandonnés. Et là, cette affaire, c'était non seulement ils aimaient l'argent, mais en plus, ils aimaient leur argent. Cahuzac, en fait, c'était son argent. Il avait fait ça pour de l'exil fiscal personnel. Voilà, en fait, il appartenait, en fait, à une mouvance politique interne au Parti socialiste qui s'appelle, en fait, les Strauss-Kahniens. Ils s'appelaient comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'ils étaient appelés à l'intérieur du Parti socialiste. Et c'est vraiment, en fait, la queue de comète du socialisme à la française qui dégénère totalement, quoi. En général, ils avaient des problèmes avec l'argent ou avec le sexe, et parfois les deux. Donc, c'est quand même des gens assez particuliers qui occupaient de très hautes fonctions. Et donc, j'ai tout de suite vu que ça, c'était assez intéressant, voilà, à traiter, et qu'il y avait vraiment une grosse matière romanesque, parce que pour qu'une personne reste 121 jours, forcément, c'est qu'il y a un back-office, en fait, qui a agi pour qu'il reste 121 jours en place. C'était super intéressant pour moi. C'est les mêmes personnes qui ont agi, d'ailleurs, pour gérer le naufrage Strauss-Kahn. Voilà, et donc, ça, c'était hyper romanesque, quoi. Toutes les boîtes de communication ou l'arrière-boutique de la politique que je connais bien. Parce que ça, j'aime bien. J'aime bien le faire. Donc, du coup, je l'ai peut-être encore plus fait dans cette affaire-là. Je ne sais pas si dans mes choix j'ai évolué, mais en tout cas dans mon traitement j'ai évolué, parce que dans la politique du tumulte, c'est un arrière-fond, la politique. Est-ce que là, dans ce bouquin-là, en fait, Tuer Jupiter, je ne pense pas que ce soit un thriller politique. C'est vraiment de la littérature blanche, même si ça n'a pas été pris comme ça, sur la société d'hypercommunication. C'était en rentrée littéraire, d'ailleurs. en 2018. Mais voilà, sur l'affaire Cahuzac, j'ai évolué. C'est plus l'arrière-plan, la politique dans lequel l'intrigue puisse s'achève. En fait, c'est les viscères du roman. On a ces trois personnages, le Jamila, Gérald Hébert et Dubac. Et en fait, c'est pas un dé, c'est pas, c'était pas un, je veux pas critiquer mon premier livre que j'adore, mais c'était plus un décorum, en fait, la politique. Tandis que là, c'est nécessité, en fait, vitale pour que les livres fonctionnent. Ce sont les viscères du livre et pas de viscères, pas de corps qui fonctionnent. Il en faut pour filtrer.
Ouais, je reviens sur la thématique de la communication parce qu'elle est flagrante et fascinante. C'est déjà il y a une dizaine d'années, mais finalement les choses n'ont pas forcément évolué en ce sens aussi, puisque l'idée est aussi de détourner l'attention des médias. Ça va être aussi un gros sujet du livre. Pour le coup, là, la communication, c'est la pierre angulaire de ce livre-là, puisque tu nous dévoiles beaucoup de choses. Alors, toutes les choses sont fictives, en effet, que ce soit les écoutes de la NSA, notamment les dialogues entre Stéphane Le Foll et François Hollande, savoureux, évidemment. Là aussi, on pourrait penser que tout est réel, et pourtant, tu as tout fabriqué, et tout paraît si plausible. Cette porosité entre la fiction et la réalité, c'est peut-être là où tu excelles encore plus, je trouve, dans ce roman-là. Parce que on ne sait plus, tu nous perds totalement sur la fiction et la réalité, et au final, on se dit que tout est plausible, que tout est réalisable, et c'est ça qui est peut-être le plus inquiétant, finalement.
J'aime bien interroger les rapports du réel, de la fiction au réel. Je fais ça, alors ça, pour le coup, je fais ça dans tous mes livres. Mais alors, dans celui-ci, c'est vrai que même moi, l'écrivant, en fait, c'était un processus nucléaire. Je me suis rendu compte, à un moment, j'ai vu que ça fusionnait, en fait. Enfin, je ne l'ai pas vu, en fait. J'ai senti que les deux matériaux fusionnaient. Et c'est très, très étrange, puisqu'à la fin du livre, ce qui me paraissait le plus fictif étaient les éléments de réalité. Et ce qui me paraissait le plus réel, c'est la fiction que j'avais créée. Parce que moi, mes personnages, ils ont une forme de rationalité. Ça reste des personnages, quand même, même si on essaie de bien les faire. Il y a une forme de cohérence et de logique. Alors que dans Les Viscères de la République, là, tout paraissait fictif. En fait, j'ai beaucoup, notamment, d'encarts de presse. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est incroyable, tout ce que tu as recréé comme encart de presse, ça sonne juste. Et pour les gens, ça leur paraissait totalement fictif. Ils se disent, ce titre du Figaro est bien trouvé. Oui, il est bien trouvé parce que c'est un titre du Figaro, en fait. Les encarts de presse sont réels. Et aux yeux des gens, ça apparaît très fictif. Parce qu'en fait, pendant 121 jours, il y a un nombre. Même quand on se souvient des interviews de Jean-Michel Apathy ou de Jean-Jacques Bourdin, en fait, on se dit, moi je l'ai retranscrit, ça a l'air totalement fictif, c'est du mot à mot, en fait, je les ai retransmis mot à mot. Mais quand on a le recul, on se dit, c'est pas possible, ils n'ont pas pu dire ça, ils n'ont pas pu être aussi cléments avec le garçon qu'ils avaient en face d'eux, c'est impossible. Et donc là, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de. C'est ça, il y a eu fusion, la fusion nucléaire. Plus fission, en fait, c'est la fusion. J'ai vu que les deux matériaux. Je savais plus, en fait. Et ça, j'ai beaucoup de retours de lecture comme ça. Alors, j'ai des lecteurs qui cherchent chaque nom, par exemple. Chaque nom qu'il y a dans le livre, il va sur Google pour voir si c'est réel, pas réel. Il y a des gens qui jouent à ça. Et du coup, ça me l'a fait sur moi-même. Donc, je comprends que ça le fasse sur les lecteurs et les lectrices.
Non, alors justement, je reviens sur ces écoutes, puisqu'en effet, elles sont fictives, mais on sait qu'elles sont plausibles, puisque la NSA, on sait qu'Edward Snowden a dévoilé quand même beaucoup de choses, on sait que la NSA a écouté la France et les relations politiques entre certains hommes politiques. Comment tu as travaillé la matière dialogue? Parce que là, faire coexister un dialogue, on ressent même la voix, en fait, celui que tu réussis le mieux, je trouve, c'est François Hollande. Je trouve que véritablement, tu une sorte de, tu as fait, on voyait sa marionnette au guignol de l'info, quasiment en fait. Je trouve que dans les dialogues, tu arrives à faire émerger une émotion, à faire émerger un tempérament, une mimique. On arrive même à décanter, à voir le petit sourire de François Hollande quand il dialogue avec Stéphane Le Foll. C'est là où je trouve que la matière littéraire, elle est extrêmement forte aussi. Comment tu travailles ces dialogues, ces fausses écoutes téléphoniques?
Déjà, pour contextualiser, deux points. Je pense que les Américains ont vraiment écouté les Européens, mais déjà, Il voulait plus écouter Merkel que la France, je pense, parce que le pouvoir est plus en Allemagne que chez nous. Donc ça, c'est le premier point. Bon, moi, j'ai traité le volet français. Après, il y a un bouquin qui est très bien fait, forcément, c'est le journaliste qui a sorti l'affaire, qui s'appelle Fabrice Arfi. Voilà, il y a un bouquin sur l'affaire Cahuzac. En fait, moi, ce qui m'intéressait, et il y a plus d'éléments, ou tout autant, enfin, il y a plus d'éléments dans le livre d'Arfi que dans le mien, puisque c'est une enquête journalistique. Très bien faite et qui n'a jamais été attaquée. Donc, a priori, tout ce qu'il y a à l'intérieur du bouquin est réel. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était ce que Fabrice Arfi n'a pas pu mettre dans son livre. Parce que c'est assez. Autant je dis que la politique, c'est enivrant, mais la littérature aussi, c'est très enivrant. En fait, c'est génial de pouvoir faire. Enfin, le pouvoir que c'est. En fait, c'est enivrant parce que c'est pas un pouvoir d'écrire. C'est incroyable de pouvoir. Faire parler François Hollande ou faire parler Donald Trump dans mon précédent livre ou Emmanuel Macron. Je prends ce pouvoir-là. Donc, j'en ai beaucoup parlé avec mon éditeur parce qu'en fait, Pierre, la première fois qu'il a lu le bouquin, il m'a dit, mais c'est bizarre, ça. Il avait l'impression au départ que les documents en carte, donc toutes ces écoutes téléphoniques, etc., j'en ai coupé beaucoup, c'est un petit peu artificiel. Il me disait, mais ça sort d'où? Et moi, j'en avais besoin justement pour raconter ce qui ne peut pas être dans le livre de Fabrice Arfi, c'est-à-dire, en fait, pendant 121 jours, François Hollande, il a forcément parlé de cette affaire-là. Ça ne peut pas être dans le bouquin. Moi, je me suis dit, je vais l'inventer et je vais le mettre dans le livre. Et pour le faire, je me suis souvenu de ces écoutes téléphoniques américaines, où j'ai dit à mon éditeur, puisque ça lui semblait un tout petit peu artificiel, je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va mettre un article à un moment dans le bouquin, en document Encart, qui rappelle l'extension par le Congrès américain des pouvoirs d'écoute à l'étranger. Et donc, à partir du moment où on lit cet article, on se dit, ah, mais oui, en fait, ils nous écoutaient. Et ça paraît réaliste. Alors après, pour répondre concrètement à ta question, comment j'ai traité? En fait, j'ai traité à l'instinct. Et après, comme souvent, j'ai travaillé. Donc, j'ai en fait beaucoup écouté des interviews. Alors, celui que j'ai le plus écouté, c'est Nicolas Sarkozy. Et malheureusement, à un moment, en fait, comme il est trop romanesque dans le monde réel, pour qu'il paraisse réel dans la fiction, il faut enlever un petit peu du romanesque. Mais même dans, j'ai bien conscience qu'il est un petit peu romanesque déjà dans mes écoutes, mais j'en ai enlevé par rapport. Mais bon, ben voilà, je vais prendre l'éthique de langage, je les écoute, les expressions. Voilà, accordez-moi de neurones d'intelligence, des trucs comme ça, enfin, des trucs qu'il a dit à la télé que moi je réutilise. Voilà, quand il parle à Brice Hortefeux, il dit, écoute, mon petit Brice, écoute-moi. Alors, je ne peux pas retranscrire le mouvement d'épaule et le fait qu'il se bouge, touche beaucoup le nez quand il parle, il se touche pas, mais du coup, j'essaie bah, de retranscrire voilà, la façon de parler, toujours dans cet objectif de pacte avec le lecteur, d'illusion de réel, quoi, et que le lecteur se dise, mais ça s'est peut-être bien passé comme ça, c'est peut-être ce qu'ils ont dit. Peut-être que le soir du 4 décembre, quand il y a eu l'affaire Cahuzac, alors que tout le monde, enfin, les personnes concernées ont dit l'inverse assez rapidement dans les médias ou ont fait dire l'inverse par la collaborateur, peut-être que François Hollande a parlé à Stéphane Le Foll, peut-être que c'est crédible, et peut-être que Stéphane Le Foll lui a dit, c'est le compte de Michel Rocard, peut-être qu'il lui a dit. Peut-être que ça s'est passé comme ça. Et c'est ça qui me plaît, c'est que les gens ils disent, mais oui, ça s'est peut-être bien passé comme ça. Peut-être que le président Hollande, depuis le départ, il savait qu'il y avait un compte en banque. Peut-être qu'il a joué l'idiot du village, son personnage préféré, quoi. Peut-être qu'il a joué ce personnage tout le long parce que c'était dans son intérêt. Parce que ça me paraît quand même étonnant, alors qu'il doit y avoir 2500 personnes qui sont au courant de l'existence de compte, que le président Hollande, lui, soit pas au courant avec les services de renseignement intérieur, etc. C'est complètement ahurissant. Je pense qu'il le sait depuis le départ qu'il y a un compte. En tout cas, moi, c'est mon hypothèse. Je pense qu'il sait qu'il y a un compte. En tout cas, moi, je travaillais en politique dans le second cercle de la Hollandie et ça devait être 4-5 jours après. Et j'ai une réunion de cabinet avec l'élu pour qui je travaillais et la phrase qui n'a étonné personne lors de cette réunion, c'était. C'est le compte de Michel Rocard. Je l'ai entendu, moi, 3 jours après. Alors, si moi, je l'ai entendu dans les deuxièmes cercles du pouvoir, je n'ose même pas imaginer ce qu'il disait dans le premier cercle du pouvoir. Et d'ailleurs, quand Stéphane Foulkes, l'un des patrons de Havas, a appelé Laurent Mauduit chez Mediapart, l'un des cofondateurs de Mediapart, il lui a dit ça, c'était l'argument. Il lui a dit, j'ai aussi entendu lors d'un dîner en ville, Il a dit lors d'un dîner en ville, c'est dans le livre de Harfi, qu'il y aurait un compte en banque. Forcément, les gens devaient savoir qu'il y avait un compte en banque. Imaginons que, je ne sais pas moi, enfin, imaginons, la personne qui avait la trace, la bande, en fait, c'est l'ennemi politique de Jérôme Cahuzac. La personne, c'était pas quelqu'un, c'était pas un membre de sa famille, c'était une personne du RPR, de l'UMP, des Républicains. C'était son rival politique à Villeneuve-sur-Lot qui avait les coups de téléphone. C'est cette personne, en fait, qui avait la bande. Donc, je vois pas comment elle a pu en parler à personne. Elle s'est dit, non, surtout, n'en parlons pas. C'est totalement ahurissant. Du coup, ça, c'était super enivrant de se dire, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se parlent de quoi, tous ces gens, entre eux, dans l'intimité? Et pour avoir fréquenté les sphères politiques, je vois à peu près de quoi on se parle dans l'intimité, quoi. On se parle de rivalité, de lutte intestine, et on s'en parle souvent violemment. Il y a des personnes qui sont violentes, en fait, de par l'expression, qui déchargent la pression par la parole. Il y a des élus qui parlent mal, j'en ai vu. Ce qui n'est pas le cas de Hollande dans le livre, il parle plutôt correctement.
Calme un peu le jeu avec les autres, finalement. Il est un petit peu sur la retenue. Voilà, il fait
Ah,
attention.
il a dû. En
Il
fait,
vigile.
j'ai essayé de. Ouais, j'ai fait un président qui est un peu à l'inverse de l'image. J'ai fait un président qui est plutôt un reptile, en fait, et qui est à l'inverse de l'image majoritaire qu'il y avait de lui, quoi. La personne un petit peu qui fait des blagues, qui n'a pas la compétence, qui n'a pas la stature, qui n'a pas de sang-froid. Je ne sais pas s'il n'avait pas de sang-froid, mais c'est le président de la République qui a commandité, enfin, qui a autorisé le plus d'opérations homo de la Ve République. C'est-à-dire parce qu'en fait, quand on doit tuer quelqu'un, quand la DGSE tue, on demande au président de la République, jamais à la présidente, puisqu'il n'y a jamais eu de femme, mais en fait, on demande l'ordre d'abattre, on appelle le président de la République. Et Hollande disait toujours oui. Enfin, Hollande disait oui sans ciller, en fait. C'est quelqu'un qui, je crois même que c'est quelqu'un qui ne doit pas avoir trop de cœur, malgré l'image et le personnage qu'il joue avec peu d'empathie. Il devait dire, bon. Bah, en tout cas, c'est le personnage que j'ai essayé de construire, quoi. C'est un personnage où on dit salafiste au Soudan Sud, feu président, oui, et puis qui ouvre son frigo tranquille et qui boit un verre de jus de fruits ou un verre de vin comme si rien ne s'était passé. Alors que moi, si je décidais de la mort même d'un salaud, je pense que je dormirais mal.
Alors justement, tu parlais de violence en politique et dans les dialogues. Alors là, sur le vocabulaire que tu utilises, c'est costaud. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas citer certaines phrases, mais il y a quand même des choses dures. Comment tu t'autorises aussi tout ça? Est-ce qu'il y a une véritable limite par rapport au langage outrancier, au langage parfois raciste, comment dire, misogyne? Il y a quand même beaucoup de dialogues des personnages, bien sûr. Ce n'est pas François Médéline qui parle, je le reprécise pour ceux qui n'ont pas forcément de second degré dans une société aujourd'hui où le romanesque a du mal à exister en tant que tel. J'aimerais bien avoir ta réponse sur ça, sur le vocabulaire que tu emploies, que tu fais dire à tes personnages.
Je devrais m'autoriser des limites parce que je vendrais plus de livres. Mais je fais plutôt de la littérature réaliste. Donc, par exemple, quand j'ai des policiers, bah, ils sont souvent racistes comme ils parlent. Je connais des policiers et quand ils parlent des jeunes de cité, ils disent pas les jeunes de cité. En fait. Ils utilisent pas ces mots. Ils utilisent des mots racistes. Si tout allait bien dans la société, il n'y aurait pas MeToo, il n'y aurait pas. En fait, s'il y a MeToo, c'est qu'il y a des soucis. Donc, en fait, moi, je fais de la littérature réaliste. Bah oui, il y a des expressions misogynes. S'il y a MeToo, c'est qu'il y a des gens qui sont misogynes. Sinon, il n'y aurait pas ce mouvement-là. Donc, je suppose qu'il y a des homophobes. Donc, moi, j'ai des personnages qui peuvent être homophobes dans mes bouquins parce que je fais juste de la littérature. De la littérature réaliste. Alors après, est-ce que je me réfugie derrière mes personnages pour porter une idéologie? Non, les gens sont à peu près. Je suis à peu près au clair sur mon idéologie politique. Je me fous un peu de tout désormais, mais je pense pas. Enfin, je pense pas. Je suis sûr de pas être. Je suis sûr de pas voter pour le Rassemblement National ni pour Éric Zemmour. Je pense pas être misogyne ni homophobe, mais c'est vrai que j'ai des personnages. Donc, si j'en ai besoin, je m'autorise tout. En fait, c'est ça c'est un vrai exercice de liberté, la littérature. Enfin, si j'en ai besoin, pourquoi je m'empêcherais de l'utiliser? Là, j'écris par exemple un scénario à l'heure actuelle, qui est l'adaptation de Pike, un roman qui est paru chez Gallimard Meister, et parce que c'est un livre qui, un, alors je devrais pas en parler, mais peu importe, puisque c'est un livre, un film pour les États-Unis, bah il a été lu effectivement par une sensitive rideuse, parce que c'est un livre sur le racisme aux États-Unis, donc pour savoir si il y avait des problèmes par rapport aux Afro-Américains dans le scénario. Il n'y en avait pas. Voilà. Parce que non, il y avait des expressions racistes en fait dans le scénario, mais c'était pas le souci en fait. Par exemple, dans le scénario que j'ai écrit, quand il y avait un homme blanc qui rentrait dans la pièce, c'était un homme blanc rentre dans la pièce, et quand un homme noir rentrait dans la pièce ou une femme noire, c'était une femme noire rentre dans la pièce. Et en fait, dans les scénarios, les lecteurs afro-américains se rendent tout de suite compte, très rapidement compte, quand c'est un scénariste ou une scénariste blanche ou blanc, puisque, en général, quand un homme blanc rentre dans la pièce, c'est un homme, tout court. Et quand un homme noir rentre dans la pièce, c'est un homme noir. Alors, si vous lisez un homme rentre dans la pièce et que l'adjectif est utilisé que pour les personnes de couleur, vous savez en gros que c'est un blanc qui écrit. Donc, ben, oui, il faut faire gaffe à ce genre de choses, pas être auto-centré, avoir un petit peu d'empathie, se mettre à la place des autres, mais j'ai déjà eu des retours de lecture très négatifs par rapport à ça. Ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Mais après, j'aimais bien lire Charles Bukowski. J'aimais bien Bukowski quand j'étais en post-adolescent. Ça me plaisait vachement. Je pense qu'il ouais, non, il vivait la littérature comme un exercice de liberté, lui aussi. Après, je force personne à lire mes livres.
Non, c'est sûr. Justement, je ne sais plus si la manufacture met inscrit le mot roman sur les livres. Là, il n'y est pas. En tout cas, sur le livre que j'ai, il n'y est pas. Par rapport au personnage réel que tu utilises, est-ce que vous vous êtes, avec Pierre, posé la question sur l'utilité d'utiliser les personnages réels, les noms de certains personnages, principaux ou secondaires Est-ce qu'il y a une crainte que le livre soit attaqué, que le livre soit lu par certains élus de la République et que on puisse te rétorquer que ce n'est pas forcément une matière romanesque?
Déjà, quand je l'ai écrit, c'est marrant, j'avais repris l'avertissement qu'il y a dans Tuer Jupiter en disant ce livre n'est qu'une fiction, vous ne pouvez pas suspecter que ce soit un livre réel. Et en fait, je l'ai remis de moi-même en fait dans La Résistance des matériaux, et Pierre l'a enlevé à l'édition. Il m'a dit non, non, on ne va pas mettre ça, on voit bien que c'est un roman. Donc tout le monde sait que c'est un roman. Et c'est ce que je te disais au départ, c'est tout est de la fiction, j'ai simplement des personnages fictifs qui s'appellent François Hollande ou Nicolas Sarkozy. En fait, c'est des personnages fictifs qui portent des patronymes qu'on retrouve dans la réalité. Est-ce qu'on se pose ces questions? Moi, à l'écriture, non. C'est pareil, hein. C'est ce que je dis, c'est un vrai exercice de liberté, donc je me pose aucune question, et ce dont j'ai besoin, je le mets. Et puis pour la première fois dans ce livre, Picard m'a fait enlever, donc mon éditeur m'a fait enlever quelques noms. Et bizarrement, pas du tout des noms de personnalités très, très connues, plutôt des noms de second couteau. C'est-à-dire, quand vous avez une personne qui est chef de cabinet de François Hollande, par exemple, personne ne connaît son nom en 2012, et vous lisez, et vous avez l'impression que c'est un personnage fictif, sauf si vous allez sur Google et que cette personne est préfète, désormais, ça ne sert à rien de laisser le nom, en fait. Si je mets Dominique Strauss-Kahn, on ne va pas enlever le nom de Dominique Strauss-Kahn. Donc on laisse le nom de Dominique Strauss-Kahn, mais il m'a fait enlever quelques personnages secondaires, et il m'a fait enlever un personnage alors qui est secondaire mais qui était important dans l'intrigue. Alors je le dis pas, parce que sinon je déflore vraiment quelque chose de très important, mais c'est la personne à qui Jamila fait le SMS à la fin en fait. C'était une personne réelle, et Pierre m'a fait enlever le nom de la personne de la personne réelle. Donc voilà. Il y a des casinos pour donner un indice, mais j'en dis pas plus. Et je pense que c'était pour des questions juridiques, effectivement. C'était pour des questions d'ordre juridique. Donc oui, c'est l'éditeur en fait qui se pose ces questions-là, mais j'ai un éditeur assez courageux et je pense que ce livre n'aurait pas pu être publié ailleurs hein, qu'à la manufacture de livres. Je pense que Tu es Jupiter n'aurait pas pu être publié ailleurs qu'à la manufacture de livres. D'ailleurs, je me souviens d'une question de Marianne qui lui avait dit, mais on en est où de la consultation juridique sur Tu es Jupiter? Elle lui avait demandé parce que, et à un moment, il avait dit, je vais faire une consultation juridique, puis il ne l'avait jamais faite. Il avait dit, en fait, on va dépenser 5 000 euros d'avocat pour s'entendre dire qu'on ne peut pas publier le livre parce qu'il y a trop de risques. Donc, autant économiser ces 5 000 euros-là. Et je pense que bah, pour la résistance des matériaux, il a fait la même chose, il l'a publié. Et pour répondre à la première des premières questions sur ce que je représente à la manufacture des livres, c'est toujours gênant de parler de soi-même, mais je crois que dans cette maison d'édition, il y a en fait c'est constitutif de la personnalité de Pierre et de sa maison d'édition. Il y a des livres assez mainstream, assez grand public, de la littérature populaire, et je pense qu'en fait il a quelque chose de sulfureux en lui, il a quelque chose d'irrévérencieux. Voilà, il suffit de regarder les beaux livres qu'il publie. Ou certains textes qui sont pas forcément dans l'air du temps. Quand vous faites l'album pornographique de Michel Simon en plein mouvement MeToo, par exemple, ça veut dire que vous avez quelque chose en vous, en fait, vous avez une forme d'irrévérence. Et je pense que il aime ce côté un petit peu irrévérencieux, un petit peu sulfureux, ou en tout cas, on va loin, on va loin, en fait. Les limites sont. On se fixe toujours des limites. Quand on écrit, c'est un exercice total de liberté, mais quand même, il y a des limites éthiques. Par exemple, sur ce livre-là, je me suis posé une question. Et d'ailleurs, je vais en parler avec l'intéressé demain que je vois à 17 h. Je me suis dit, et j'en ai parlé avec en fait, Fabrice Arfi, c'est son vrai nom dans le roman. Il est plutôt du côté des bons qui a sorti l'affaire. Et Jérôme Cahuzac, il est protégé puisque ce n'est pas son vrai nom dans le roman. Et je me suis posé cette question moralement. Je me suis dit, mais. Tu peux faire ça en fait. Tu peux rentrer dans l'appartement de Fabrice Arfi, parler de la vie intime de Fabrice Arfi, de ce qu'il y a dans son frigo, et protéger Jérôme Cahuzac en l'appelant Serge Rogéry. Ça, je me suis vraiment posé la question. Et après, et je lui en parlerai demain, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce qu'en fait, je ne pouvais pas l'appeler Jérôme Cahuzac. J'avais besoin de faire ce pas de côté en fait. Pour justement faire un livre de pure fiction et pas être aspiré et noyé par l'objet, parce que je ne le voyais pas en fait. Si j'étais Jérôme Cahuzac, j'ai fait un pas de côté, ça m'a permis de le voir. Et surtout, dans le cadre du pacte de crédibilité avec le lecteur, si j'étais à Villeneuve-sur-Lot, là où Cahuzac a été maire, en fait, il y avait plein d'éléments ça n'aurait pas fonctionné en fait. Jamila ne peut pas exister à Villeneuve-sur-Lot. Mes personnages fictifs ne peuvent pas exister. Donc j'ai eu besoin en fait de faire un pas de côté, de déporter un petit peu, de vraiment partir de la fiction pour interroger le réel plus fortement et aller jusqu'à la fusion. Mais on se pose évidemment des questions éthiques et morales quand on écrit, quand j'ai tué Jupiter, quand j'ai tué Emmanuel Macron, que son corps est préparé sur une table par une embaumeuse, je me suis posé la question de savoir si on avait quand même le droit de tuer quelqu'un, même si c'est un personnage fictif et que la personne peut lire le livre. Je me suis dit, mais s'il le lit, en fait, qu'est-ce que ça va lui faire? C'est quand même étrange, quoi. Non, mais on se pose ce genre de questions. Mais du coup, j'avais trouvé d'ailleurs à l'époque un subterfuge, j'avais appelé ça le chapitre du nom du premier manuscrit d'Emmanuel Macron, parce que moi, je voulais être président de la République, lui, il voulait être romancier. Malheureusement, pour lui, c'est l'inverse qui s'est passé. Mais je m'étais dit, je vais lui en adresser un message s'il lit cette scène. C'était, bah voilà, vous avez le pouvoir de réalité, puis moi j'ai le pouvoir de vérité en tant que romancier, vous avez le pouvoir de réalité en tant que le président de la République. Mais oui, je me pose ces questions. Mais ce n'était pas ta question, mais c'est ma réponse.
Que
Moi,
les.
je veux juste ajouter quelque chose. Alors, parce qu'il y a une question dans le chat, est-ce qu'ils l'ont lu et des retours de ces personnages? Alors, il se trouve que, bah, à ma connaissance, nous n'avons pas eu de retour des hommes politiques cités. Je sais que François avait envoyé son livre à Emmanuel Macron, avait envoyé Tu es Jupiter à Emmanuel Macron et que, alors, Il se trouve que le service de l'Élysée est quand même très bien fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on leur envoyait des livres, ce qui nous est arrivé plusieurs fois à la manufacture, parce qu'on avait des textes qui, par ailleurs, avaient plutôt dans les documents, etc., des éléments qui pouvaient être intéressants au niveau politique. Bon, bref. Donc, on a déjà adressé des livres à l'Élysée, on a toujours reçu une lettre signée d'Emmanuel Macron qui nous disait combien ce livre était formidable. Bon, dans le cas de Tuer Jupiter, ça n'est pas arrivé. Là, nous n'avons pas reçu de réponse. Va savoir pourquoi. En revanche, je sais que Pierre avait, sur un salon du polar, avait fait lire à l'épouse de Fabrice Arfi, les pages qui le concernaient et que sa réaction avait été... Enfin, c'est pas du tout décoré comme ça chez nous. Donc voilà, mais elle n'avait pas été plus choquée que ça. Mais c'est vrai que comme François rencontre justement Fabrice Arfi demain, il pourra avoir le fin mot de sa réaction sur ces pages dont il est le héros. Et sinon, je ne sais pas, François, toi, est-ce que tu as eu des retours d'hommes politiques qui pourraient être cités dans le livre?
Non. Non, mais si j'en avais, je ne le dirais pas. Non, mais en fait, on n'a jamais de retour. C'était comme pour Tuer Jupiter. Vous imaginez qu'il y ait Pierre Moscovici qui attaque le bouquin, ou Tuer Jupiter, Emmanuel Macron, ou la François Hollande qui réagissent. En fait, même s'ils savent que le livre existe, même s'ils lisent le livre, ils réagiront jamais.
Oui.
On vendrait 300 000 livres. Je veux dire, on ferait qu'en parler. Je serais invité sur toutes les émissions de télé. Donc, ils n'en parlent pas. Et en fait, ils n'en parlent pas. Ça n'existe pas. Passons à notre
Oui, ça,
prochain match.
je rejoins François. C'est pour éviter d'aborder le sujet, surtout ne pas en parler. Je pense que là, leur stratégie de communication ne peut être qu'évidente. C'est assez logique.
Et c'est pour ça qu'avec Pierre, on dit toujours pas d'inquiétude, on n'aura jamais de procès. C'est pour ça qu'on peut tout faire.
On précise, tout à l'heure, tu parlais de l'éditeur et du risque pas juridique, c'est que le directeur de publication, c'est Pierre Fourniaux, finalement, c'est lui
Oui.
qui assume les risques et non pas l'auteur. Je vais faire le procès aussi.
Il y a des clauses juridiques dans les contrats où on doit fournir des manuscrits qui ne sont pas des contrefaçons, où il n'y a pas de diffamation, pas d'injure publique. Pour Tuer Jupiter, j'avais demandé à ce qu'on me la retire. Et Pierre l'avait retirée, d'ailleurs. Et là, je l'ai laissé, je ne lui ai même pas demandé. Mais en fait, quand un éditeur est attaqué, puisque en fait c'est l'éditeur, c'est la personne qui diffuse en fait pour diffamation qui est attaquée. Donc c'est lui qui prend la responsabilité de la publication. Vu qu'il y a cette clause juridique, l'éditeur peut se re peut, on dit mettre l'auteur dans la cause. Donc ça veut dire que l'éditeur peut se retourner contre l'auteur. Il est excessivement rare que les éditeurs mettent les auteurs dans la cause pour quelque raison que ce soit, sauf quand les éditeurs pense que l'auteur est pas blanc comme neige. Ouais, non, mais quand l'auteur, s'il y a un vrai souci ou il se pose des questions sur l'auteur, il le
Oui,
défend pas. Mais
ça
en fait,
pourrait
les
avoir lieu
éditeurs.
dans des, par exemple, si un manuscrit était remis, qui aurait été un plagiat assumé par l'auteur, mais indécelable par l'éditeur, par exemple. Bon,
Donc.
enfin là, quand on publie les livres de François, enfin on les a lus, on sait ce qu'il y a dedans, donc a priori, c'est qu'effectivement,
Ils
on les a
prennent leurs
assumés.
risques.
Bonsoir tout le monde, bonsoir Marianne, bonsoir. François, vous insistez, je pense à juste titre, hein, sur la liberté de la fiction et vous soulevez enfin, vous faites état de vos interrogations finalement sur voilà, l'aspect moral, éthique de tout ça. Mais ce soir, en fait, vous diffusez, vous exprimez, vous verbalisez clairement le nom de tous ces hommes politiques. Est-ce que c'est Alors que ça aurait pu rester hein, derrière la fiction, finalement, est-ce que c'est pour vous, en le disant comme ça dans une rencontre, est-ce que c'est pour vous une manière d'arrêter de les protéger, justement, vous parliez de la
Après, ils
protection?
sont tous cités dans le bouquin et j'ai cité deux, trois noms qui sont pas dans le livre, mais après, voilà, il y a quand même beaucoup de personnages, il y a quand même beaucoup de personnages, enfin de noms de personnages réels dans ce livre-là. Ce que je peux dire, c'est que je prends quand même vachement moins de gants avec les personnalités politiques. En fait, ce sont des gens de pouvoir. Oui, je les abîme pas trop. Peut-être, ça va pas changer leur vie. Je prends souvent beaucoup plus de gants quand je traite des sujets historiques, par exemple. Voilà, quand j'ai écrit Les larmes du Reich, c'est sur les enfants juifs cachés pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah là, je vais prendre plus de gants. En fait, quand ce sont des puissants, si vous voulez, je prends moins de gants. Ça me gêne moins, en fait, moralement parlant. Ça va, quoi. On parle des ministres de l'Intérieur, enfin, des gens qui sont au pouvoir, des gens qui ont les mains dans le cambouis de la démocratie représentative. Voilà, on le sait, hein, on fait pas de, quand on veut assumer certaines responsabilités, on ne fait pas que le bien. On ne fait pas que des actions de bien, je veux dire, moralement, on le sait en fait. C'est comme ça, c'est consubstantiel de la fonction. Donc moi, si je les abîme, si je les écorche un peu, ça me gêne quand même beaucoup. Mais je n'ai pas vraiment répondu à la question.
En
Photo
effet.
de groupe.
C'est le moment de la photo de groupe. Et après, François, tu nous liras avec joie un premier passage. C'est bon.
Ouais.
Allez, photo, c'est parti. C'est bon. Merci. À toi, François.
Je déteste lire, mais je le fais. Je vous lis l'incipit, le début du bouquin. Donc, c'est le premier chapitre. Jamila Garambou-Chakhi est à Privas. On est le 4 décembre 2012, jour donc de l'affaire Cahuzac, et moi dans mon bouquin de l'affaire Ruggeri. On l'envoie de la préfecture de l'Ardèche bavasser avec des gens en reconversion professionnelle. Elle est sûre d'en être capable. Le voyage en Renault Velsatis, c'est les Rhône-Alpins qui paient. Modèle luxe, siège chauffant. Le comptable public ponctionnera une ligne budgétaire de la deuxième région de France. Personne n'en a vraiment conscience, pas même Aurélien, assis sur le siège avant passager, un grand rouquin à cravate étroite. À l'extérieur de la berline, tout le monde se dirait pourtant, à quoi ça rime? Oh, rendez-nous le blé. Le trajet est sans histoire. Le chauffeur avale l'asset à 150 km par heure, tout chousse. Il s'appelle Pascal. C'est un taiseux au crâne glabre, bon mec populo qui n'aime pas les Arabes et qui mourrait pour elle. Dehors, il fait 4 degrés Celsius. Météo France annonce la neige pour demain. Elle arrive des Ardennes. Jamila a la nausée depuis le réveil. Ça a empiré à la sortie de Lyon. Jamila déteste l'hiver. Donc voilà pour l'incipit. Et tu veux que je te lise le deuxième dans la foulée ou pas? Ok.
Bon. On va parler du titre, La résistance des matériaux, puisque tu mets au tout début du livre cette loi de Hooke sur laquelle je planche depuis déjà 3 semaines et à laquelle je n'ai toujours rien compris, n'étant ni matheux ni physicien. Mais elle est très intéressante et j'aimerais que tu nous l'expliques, peut-être que tu arrives à la vulgariser, puisque c'est le titre du livre et que la résistance des matériaux, on comprend très vite en effet ce que ça en dit, mais pourquoi avoir choisi ce principe de physique?
En fait, c'était un bouquin sur la pression vécue par le personnel politique durant l'exercice du pouvoir. C'est l'un des vrais thèmes du livre, en fait. Des personnels qui sont sous pression tout le temps, très pressurisés, notamment par le rythme médiatique. Et là, en plus, on est dans le cadre d'une affaire d'État, donc la pression est intense. Et c'est ça que je traitais. Le bouquin s'appelait pas comme ça. S'il fallait répondre à l'image d'Épinal des romanciers solitaires qui maîtrisent tout et qui ont de l'inspiration, je vous dirais que j'ai trouvé le titre justement pour répondre à ce thème, mais c'est l'éditeur qui a trouvé le titre malheureusement et qui l'a suggéré. Enfin non, fort heureusement en fait. Donc en fait, c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est Pierre. Et je trouvais ça vraiment très bien. Ça correspondait parfaitement au roman. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il me l'a proposé. Et puis, je trouvais que ça renvoyait assez à la politique du tumulte, mon premier titre, puisque ce sont mes deux vrais thrillers politiques. Puis voilà, ça sonnait bien. Il était assez classieux, en fait, comme le livre, quoi. Voilà, la couverture aussi, il est un petit peu, c'est de la littérature, entre guillemets, exigeante, ou c'est mon bouquin le plus ambitieux. Donc, ouais, je trouvais que ça collait bien à l'objet. Livre et puis au sujet du livre. Mais grâce à Pierre. Et gloire à lui.
Sur le flic lyonnais Dubac, qui avait déjà une vie dans L'Ange Rouge, un des précédents romans que tu avais écrit et pour lequel on t'avait reçu. C'est un personnage que tu aimes beaucoup. Est-ce qu'il va aussi avoir une vie Quelque chose de plus, est-ce que c'est un personnage que tu aimerais développer davantage et comment tu pourrais le décrire aussi dans ta manière d'aborder un thriller, un polar pour le coup, il a quand même une importance capitale alors que finalement il a morflé, entre guillemets, depuis ses 15 dernières années après L'Ange Rouge. Tu l'as aussi, tu l'as bien morcelé, je trouve, ce personnage-là.
J'ai décidé de faire ce qu'il ne faut pas faire pour vendre des bouquins. En fait, j'aurais dû prendre ce personnage, faire un deuxième livre un an après, un troisième livre 4 ans après, voilà, et faire une série policière, ce qui aurait grandement arrangé Mariam Lacombe. Mais en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre ce personnage et puis en fait de le prendre en fin de course direct. Et peut-être qu'un jour, je m'en resservirai entre ces deux périodes temporelles. Oui, je peux avoir besoin d'un flic à Lyon. Dans les années 2000, et à ce moment-là, oui, peut-être que j'utiliserai Alain Dubac. Et pourquoi en fait je l'ai utilisé là? C'est parce que j'avais besoin, dans le cadre de l'affaire Ruggieri Cahuzac, j'avais besoin d'un flic qui mène pas d'enquête. Parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'enquête dans l'affaire Cahuzac. Il n'y a pas d'enquête. Il n'y a jamais eu d'enquête. On a fait croire qu'il y avait une enquête, mais une enquête pour diffamation. Il n'y a pas une enquête pour fraude fiscale. Elle est arrivée très, très tardivement. Ce qui fait qu'en fait, les enquêteurs, Cahuzac, pendant de longues semaines, est allé à la télé dire la justice suit son cours, une enquête indépendante est menée, mais l'enquête consistait à vérifier si Mediapart était un journal, si Fabrice Arfi était salarié de Mediapart, si Mediapart avait diffusé l'article du 4 décembre. Et pas celui du 5, parce qu'il y avait la bande sonore. Donc, ils n'avaient jamais attaqué cet article-là pour diffamation. Donc, en fait, l'enquête qui a été menée, c'est celle-ci. Et donc, moi, il me fallait un flic en fin de course, qui est à la brigade financière de Lyon et qui est pas, en fait, qui ne mène pas à une vraie enquête. Le fait est, par contre, que, bah, voilà, il y a un grain de sable qui fait qu'il va s'investir. Pas dans, je ne vais pas raconter le bouquin, pas dans l'enquête, mais il va s'investir dans l'histoire, ouais, il va s'investir dans l'histoire, il va s'investir dans le destin de cette Jamila qui est en fait un dommage collatéral de l'affaire Ruggieri Cahuzac. Voilà pourquoi je l'ai utilisé. Et après, oui, j'ai forcément après de la sympathie pour mes personnages, même si je le maltraite beaucoup celui-ci.
Finalement, tu en reviens toujours à Lyon dans tous tes romans ou presque, je crois, j'ai un doute, mais cette ville intervient quand même constamment. On sait que tu en es proche, c'est le moins qu'on puisse dire, mais c'est devenu un élément, un personnage principal de tous tes romans.
Ouais.
Il faut qu'il soit là. C'est pour ça, tout à l'heure, tu parlais de la délocalisation pour aussi faire parler de Jamila, la fan de l'Olympique lyonnais.
Ouais, c'est ça. Mais parce qu'elle a joué au foot. Et malheureusement, c'était une femme, sinon elle aurait été Zinedine Zidane, puisque c'est un sport qui a été inventé par des hommes pour les hommes, comme la plupart des sports. En fait, c'est le seul lieu où je. Enfin, il y a des lieux où je me sens chez moi, et Lyon en fait partie. C'est vraiment. J'ai un attachement particulier à cette ville. Comme je dis souvent, qui est une ville assez. Alors, les gens disent mystérieuse et bourgeoise, mais c'est une ville assez populaire, c'est une ville très criminelle. Avec des grandes affaires criminelles, on a assassiné un juge, le gang des Lyonnais, une ville de trafic de drogue, une ville de prostitution, une ville où il y a eu de grands flics déchus, comme le commissaire Néret, plus récemment. Ouais, c'est une ville qui est aussi dans le roman. Voilà, c'est un peu la revanche de. J'en fais toujours la capitale du pays dans mes livres. En fait, c'est la capitale politique c'est la vraie capitale. C'est Londinium. C'est le lion romain. En fait. Quand on était tout puissant, quand on était numéro un. Après, on l'a été au football, mais sinon, non. Maintenant, c'est Paris, politiquement et pour le foot aussi. Non, mais j'ai besoin de cette ville. J'y suis très attaché. Et en fait, elle fonctionne très bien avec mes univers. Et en fait, j'aurais pas écrit si j'étais pas lyonnais. J'écris sur Lyon. Il y a des livres où c'est même le personnage principal. Dans L'Ange Rouge, c'est le personnage principal, c'est la ville. Donc, je la mobilise tout le temps. Je me sens peut-être que ça me rassure. Je me sens bien dans cette ville. J'aime bien y faire évoluer mes personnages.
Mais on n'a pas encore parlé de Gérald Hébert, qui est quand même, c'est peut-être celui qui est peut-être le plus truculent et celui sur lequel tu t'es peut-être le plus amusé aussi, je ne sais pas. J'aimerais que tu nous parles de cette histoire, de ce personnage-là en lui-même, comment tu l'as façonné, est-ce qu'il est proche de toi peut-être, je ne sais pas, j'espère pas, mais sait-on jamais. Mais il y a quand même quelque chose de différent sur ce personnage-là, sur Gérald. Qu'est-ce que tu peux en dire?
Gérald est très proche de moi et que Hébert l'est pas du tout. Puisque en fait, c'est un personnage très dual. Donc, c'est le livre que j'ai dédié à mes enfants. Donc, il y a une partie intime dans le bouquin que quand ils seront en âge de lire le livre, qu'ils liront. Et on va dire que donc ça correspond à... Puisque le personnage a deux fils comme moi. Et donc ça correspond à sa partie, à sa bonne partie. Et ça m'a beaucoup plu, en fait, de... C'était peut-être le personnage qui est capable de le plus d'amour, en fait, dans le livre. C'est un personnage aimant. Il aime sa femme, il aime ses enfants. Mais c'est un personnage qui est un ancien du renseignement intérieur, qui a travaillé à la DST. Et en fait, c'est un salopard de l'État. Donc, c'est quelqu'un qui tue pour le compte de l'État. Et désormais, il a une officine privée et de sécurité. Comme certains personnages de l'État en montent une fois, vous voyez, par exemple, le numéro 1 du renseignement intérieur sous Sarkozy s'appelle Bernard Squarcini. Puis une fois qu'il a quitté l'État, il a monté une officine, il a mis sous écoute François Ruffin notamment. Il a travaillé pour LVMH. Donc il y a des personnalités comme ça qui passent des renseignements après à la société privée qui travaille, on va dire, qui travaille pour ce qu'on n'appelle pas l'État, mais qui est l'État. Alors, donc, moi, c'est une grosse boîte du BTP. Parce qu'en fait, dans l'affaire Cahuzac, ce qui me paraît fou, c'est que, en fait, cette personne a été condamnée parce qu'on a retrouvé un compte avec 700 000 ou 600 000 euros, alors que Fabrice Arfi dit qu'il y a un compte où il y avait 15 millions d'euros. Donc, il en manque plus de 14. Et surtout, en fait, on a dit c'est les laboratoires pharmaceutiques. J'ai déjà vu les noms de Pfizer ou du laboratoire Pierre Fabre à Castres, puisque c'est pas loin de Villeneuve-sur-Notre. Mais en fait, ces gens n'ont jamais été condamnés. Il n'y a jamais eu d'enquête sur d'où vient le fric, d'où vient l'argent. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, à partir du moment où il y a une affaire, les personnes qui ont fourni l'argent au départ doivent être inquiets. Et je pense que dans la réalité, les gens étaient inquiets, les laboratoires pharmaceutiques étaient inquiets. Moi, dans mon bouquin, c'est les boîtes du BTP, donc ils agissent. Et ils décident en fait de fabriquer un contre-feu. Et donc, c'est ce personnage-là qui est, je le dis très sincèrement, mon personnage préféré du bouquin, celui que je suis le plus attaché à, celui que j'ai le préféré écrire. J'aime bien Djamila, j'aime bien Dubac, mais dans le bouquin, voilà, celui que je préfère, c'est lui. Comme dans la plupart de mes bouquins, en fait, j'aime bien écrire, je préfère les personnages de salaud, c'est plus intéressant, plus intéressant à écrire. Le seul personnage vraiment très positif que j'ai aimé écrire, c'est Mamie dans L'Ange Rouge. Alors, elle a un côté hyper sombre aussi, en fait, mais c'est un personnage de bien, mais elle a un personnage hyper sombre. Et en fait, j'aime bien explorer ces personnages un peu gris, quoi, qui sont vraiment des salopards, mais qui agissent bien en même temps. Et donc, lui, c'est une personne. C'est une personne comme ça. Et mes lecteurs les plus fidèles, y en a qui l'ont vu, mais peu, très très peu. Enfin, c'est un personnage qui est déjà dans mon premier roman, dans La politique du tumulte, qui est un personnage très secondaire, en fait. Donc, il y a des éléments qu'on comprend mieux de ce bouquin si on a lu La politique du tumulte, puisque, en fait, il est recruté à la DST à la sortie de l'orphelinat par le personnage principal de La politique du tumulte, qui est aussi un barbouze de la République, mais là, qui agit pour le compte de la DST. Et en fait, c'est le personnage principal de Tuer Jupiter, puisque c'est Jean-Paul Grimandi, en fait. Donc, en fait, après ce bouquin-là, on le retrouve en 2018 dans Tuer Jupiter, notamment sur un bateau qui traverse au large des côtes de l'Afrique du Nord. Donc, c'est un personnage que j'ai déjà utilisé deux fois dans les bouquins. Je l'aime bien. Mais c'est là où, en fait, il a vraiment un rôle. Ouais, il a un rôle capital dans le. Dans notre affaire, même si le personnage principal du bouquin, ça reste Jamila. Pour le coup. Mais mon personnage préféré, j'ai un petit faible pour Hébert. Pour Gérald, pardon.
Lapsus, lapsus
Ouais.
encore révélateur. Et sans transition, qui peut nous dire qui nous sommes finalement? Qui pourrait changer la donne, François Médéline?
Rien ni personne.
Il n'y avait que toi pour faire coexister Charles Baudelaire et Chimène Badi dans deux épigraphes. Ça, c'est plutôt surprenant, mais on connaît tes facéties. Mais finalement, ça colle au texte. C'est ça qui est terrible, c'est que ça colle au texte. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour particulière avec Chimène Badi ou cette chanson, ou c'était évidemment une question aussi d'humour et de... Et le livre est extrêmement drôle, extrêmement sarcastique. Il y a quand même beaucoup de choses. Ça fait quand même 400 pages, mais on sent qu'il y a... On sent François Médéline, clairement, on sent la patte François Médéline, mais cette histoire de Chimène Badi, j'avoue que ça lance particulièrement bien le livre.
J'avais fait ça déjà dans La politique du tumulte. Il y avait donc en exergue du bouquin, de l'épigraphe, c'était Platon et. Mince, je suis libertine. Et Mylène Farmer. Et là, c'est Charles Baudelaire et Chimène Badi. Alors, au-delà de la facétie, déjà, je trouve c'est. En fait, je trouve que ça correspond assez au livre. Je pense que c'est un livre. Je pense que c'est un livre assez littéraire. Puisqu'en fait, on n'en a pas parlé, mais en fait, c'est la réponse littéraire à American Distrib de James Ellroy. C'est ma réponse, en fait, à ce roman-là. Donc, il est construit formellement exactement comme American Distrib, dans le nom des parties. D'ailleurs, si des gens lisent ce bouquin, je leur propose après d'aller lire American Distrib, comme ça, ils pourront voir, parce que ça se fait parfois dans le monde de l'art, dans la peinture, dans la musique. On peut avoir des réponses, en fait, à une œuvre. Moi, je l'ai fait parce que c'est mon maître incontesté. Donc, il y a quand même une vraie démarche, j'espère, d'écrivain, voilà, sans vouloir me la raconter, mais voilà, quand je disais au début j'écris pour écrire, et ce qui est très important pour moi, c'est l'écriture. Voilà, je ne fais pas du journalisme, je fais de la littérature. Donc, Charles Baudelaire. Histoire de. Et puis après, je pense qu'il y a un côté hyper irrévérencieux. Et en fait, je mobilise des. En fait, je mobilise des. Je l'ai dit dans une interview, je mobilise en fait du matériau vil, du matériau très populaire, parce que la littérature de genre, le roman policier, c'est une littérature très populaire. Donc j'attaque les puissants avec les armes d'en bas, vous savez, de la France d'en bas, on va dire. Enfin, je dis dans une interview, je fais la peau des puissants avec des cure-dents. Vous voyez, je les attaque pas avec des gants, et je les attaque vraiment avec des armes du peuple, quoi. Et ça me plaît beaucoup parce qu'il y a notamment, il y a beaucoup de romanciers et de romancières qui se revendiquent de gauche et qui critiquent, qui veulent porter en fait un discours assez critique du monde bourgeois et qui le font toujours en fait avec les armes de la bourgeoisie et le langage bourgeois. Et ça m'horripile tout le temps en fait. Je me dis, c'est dingue, ça a pourtant été fait, hein. C'est plus facile. Ça a été fait dans la littérature française, en tout cas. Alors, il est antisémite, j'aime pas trop le citer, mais Céline, vous voyez, il faisait de la poésie avec du matériau vil. Il arrivait à utiliser du matériau populaire pour porter un discours critique, ou en tout cas essayer de faire de l'art. Et moi, j'ai donc d'où Chimène Badi. J'aime bien, voilà, c'est de la culture populaire, rien ne peut changer la donne, rien ni personne, rien ni personne. Et je crois qu'en fait, dans mes bouquins, il y a ce côté à la fois. J'ai l'impression d'avoir conscience de ce que je fais, de me situer dans un genre, dans un courant artistique, entre guillemets, etc. Et puis en même temps, voilà, ce que je déteste par-dessus tout, c'est l'expression transfuge de classe. Je trouve ça ignoble, en fait, comme expression. Alors moi, je viens d'une classe plutôt populaire. Je suis CSP++. J'ai fait de longues études. J'étais en doctorat de sciences politiques, mais je me définirais jamais comme ça. En fait, j'ai pas envie de changer de classe. C'est quoi cette histoire? C'est ridicule. C'est très humiliant, en fait, pour ma classe d'origine, en tout cas.
Beaucoup l'humour, beaucoup la dérision, les punchlines. Est-ce que finalement c'est ton moyen, entre guillemets, d'aborder avec sérénité les affaires politiques dont on entend constamment parler finalement? Est-ce que c'est ton angle d'attaque? Voilà, Jean-Marc Ayrault a une tête d'endive et tant d'autres. J'avoue que celle-là m'a fait beaucoup rire. Parce qu'en effet, je voyais particulièrement l'endive dessinée sur son visage. Bref, j'ai l'impression que c'est ton angle d'attaque. Ça permet quand même de parler de choses extrêmement sérieuses sous un prisme différent, sous un prisme singulier. Et étant donné que ça revient très régulièrement, est-ce que c'est conscient, ça aussi? Tu as beaucoup parlé de conscience dans l'écriture, mais Est-ce que le fait de comment dire de d'utiliser ce matériau-là, est-ce que pour toi, ça te permet aussi de rendre les choses beaucoup plus simples d'accès aussi au plus grand nombre?
Je crois que c'est juste ma façon de faire. Je ne sais pas faire autrement. J'ai encore rien inventé. En fait, Elroy le fait avec ce que moi j'appelle le jab littéraire, hein, la scansion. Et moi, je le fais avec. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de rap, pas forcément. Je ne suis pas forcément un grand amateur de rap, mais quand j'étais ado, j'écoutais NTM. Et en fait, quand vous écoutez du rap, il y a un flow, en fait. Et c'est ce que j'essaie de. On appelle ça le flow, en fait. Donc, il y a pas mal de répétitions. Il y a pas mal de scansion et c'est ce que j'essaie effectivement de faire quand j'écris, donc avec des punchlines en fait, comme vous pouvez les trouver dans des morceaux de rap en fait. C'est bourré de punchlines en fait, les morceaux de. C'est des suites de punchlines plus que des vers. J'écris, c'est ma façon d'écrire en fait. Je sais pas faire autrement, pas trop autrement. Alors certains disent le sens de la formule. Mais après, ça me vient comme ça. Ouais. J'essaie d'écrire Jean-Jacques Hérault et en fait, c'est à ça que je pense en premier. Je ne sais pas pourquoi c'est l'endive qui m'est venue tout de suite par le teint, en fait. Psychologie VW, psychologie papier cellophane et VW. En fait, je l'ai vu comme ça, je le vois comme ça, donc je le mets comme ça. Parfois, c'est bien trouvé, parfois c'est mal trouvé. Il y a des gens qui trouvent ça kitsch, il y a des gens qui trouvent ça bof. J'ai énormément de très 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 mauvais retours de lecture. Ça m'arrive très très souvent. Et je lisais avec une personne il n'y a pas si longtemps que ça pour faire rire. Des fois, je vais sur Babelio pour rire. Et en fait, si vous allez sur Babelio, j'ai des critiques à 5 étoiles. Et j'ai des critiques vraiment, j'ai des gens qui vont s'exprimer très violemment sur mes livres. Et mes amis romancières ou romanciers, ça ne leur arrive pas. En fait, c'est un truc. Et je pense que ça vient de ça. En fait, ça vient de ce style-là, de ce flow. C'est comme il y a des gens, ils détestent le rap. En fait, par principe, on n'aime pas le rap. Quoi. On n'aime pas parce qu'on ne comprend pas, on n'a pas les codes culturels en fait. Parce qu'il faut avoir des codes culturels pour comprendre cette musique-là. Comme quand le jazz est arrivé, on ne comprenait pas en fait. Quand c'est arrivé, les gens qui n'avaient pas le code culturel, et puis 40 ans, 50 ans plus tard, maintenant, on a compris. Donc, voilà, c'est ma façon de faire. J'en ai pas d'autre, je ne sais pas faire autrement. J'ai essayé, hein. Je tiens à dire, j'ai essayé de faire autrement, mais je n'y arrive pas.
Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit finalement, c'est que est-ce que parler politique, écrire politique, est-ce que c'est pas un aveu aussi d'avoir envie d'y retourner? Est-ce que ton expérience première en politique t'a laissé sur ta faim? Est-ce que tu as envie d'y retourner? Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime au quotidien aussi?
Je ne sais pas, je ne crois pas, mais enfin, ce dont je suis sûr, c'est qu'à 6 ans, je voulais être Napoléon. En fait, je ne voulais pas être président de la République, je voulais être Napoléon. À 6-7 ans, je ne sais pas pourquoi. Après, j'ai vu que c'était pris et qu'il était mort, en fait, la place. En fait, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais depuis tout jeune. Et je pense que ça vient de en fait, de mes premières images de télé. Par exemple, mon premier souvenir de télévision, c'est 1981. En fait, quand le front est apparu, là, tout avec des pixelisés en fait, de François Mitterrand, et que chez moi, on a cru que c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et en fait, plus ça descendait, plus on s'est aperçu que c'était François Mitterrand et pas Valéry Giscard d'Estaing. Notamment ma mère, qui aurait préféré que ce soit Valéry Giscard d'Estaing, mais qui avait voté pour François Mitterrand quand même, à cause de toutes les casseroles que se trimballait Giscard, qui a plutôt perdu l'élection que ce que François Mitterrand l'a gagné. Mais fermons la parenthèse. Non, mais tout ça pour dire que c'est un truc que j'ai depuis tout petit. Donc, je me souviens, quand j'étais au lycée, j'étais un petit peu provocateur. Même beaucoup, et je me souviens chez des amis, des parents d'amis, où je disais, où manger une raclette, je me souviens une fois, je disais, ben, je me présenterai, vous voterez pour moi, j'avais déjà un mini-programme politique, mais plus par bouffonnerie, vous voyez, pour faire le clown, en fait, je faisais ça pour faire le clown. Et puis après, j'ai fait, comme je ne savais pas ce que je voulais faire dans la vie, j'ai fait Sciences Po Lyon, j'ai été enseignant-chercheur, donc là, j'étais quand même dans l'analyse du matériau politique, après, j'ai bossé dedans. Donc, je dois avoir une attirance, une forme d'attirance et de répulsion, en fait, pour ce monde-là. Parce que jusqu'à. J'étais pas inscrit sur les listes électorales jusqu'à 32 ans par l'idéologie politique. Hein. Je ne voulais pas m'inscrire. C'est Sarkozy qui m'a fait m'inscrire en 2007. Je me suis dit, non, il faut que je m'inscrive au cas où il faille voter contre lui. Donc, je suis allé m'inscrire sur je me suis sur les listes à 30 ans.
Aussi dans les noms des personnages, hein, pour ceux qui te connaissent et connaissent un petit peu le milieu éditorial,
Oui, c'est
on
des
y...
petits. Ouais, mais ça, en fait, c'est des petits détails pour les
Là,
personnes qui lisent. Je sais pas que dans mon éditorial, par exemple, je vais mettre le nom d'une personne que je connais parce que je sais que la personne va lire le livre. Alors, toi, tu connais ces personnes-là, mais je pense que ça n'a pas trop d'importance. Si ce n'est que, bon, voilà. Par exemple, il y a un Hugues Corvoisier qui est une personne robuste, mais pas forcément une bonne personne dans le bouquin, et que, il y a une personne dans la vie réelle qui s'appelle Thierry Corvoisier, qui travaille aux éditions Rivage Noir. J'ai utilisé son patronyme et le type peut lui ressembler un peu physiquement, mais pas plus que ça. Après, ça m'a fait rire parce que les gens qui connaissent Thierry ne le voient pas du tout comme un sale type qui est directeur de la sécurité d'un gros groupe de BTP. Et voilà. Donc ça, il m'arrive de le faire, mais pas que dans le monde de l'édition. Je le fais avec des amis. Voilà. J'utilise des patronymes, des choses comme ça, des petits clins d'œil, parce que je sais que les gens vont lire et que ça va leur faire plaisir, en fait. Donc, c'est toujours ces petits clins d'œil. Ça n'a pas grande importance, mais ces petits clins d'œil, c'est toujours important pour les gens qui le lisent, par contre. Ça veut dire, bah voilà, j'ai pensé à toi en écrivant ça. T'es dans ma vie, quoi. T'es dans ma vie réelle.
c'est ça.
Pas que dans mes romans.
Je t'avais demandé de nous parler d'un auteur connu, un auteur un petit peu qui t'a forgé peut-être en tant qu'homme ou en tant que lecteur. Quel auteur as-tu choisi ou quel livre as-tu choisi?
Alors, il ne m'a pas forgé parce que je l'ai découvert sur le tard. J'ai plein d'auteurs qui m'ont forgé avant que je lise James Ellroy. Mais je ne sais pas si c'est pas un auteur méconnu, mais c'est un auteur qui s'appelle Harry Cruse, qui a été publié principalement à la série Noire, qui est mort désormais. Et le bouquin. Alors, il y a deux bouquins que j'aime vraiment dans ce qu'il a écrit. Le premier que j'ai lu, qui s'appelle. Et sa biographie que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Des mules et des hommes. Voilà. C'est en fait quand je lis, c'est ma mère avait un atelier de maroquinerie et en fait quand elle regardait des porte-monnaie ou des sacs, elle les regardait pas comme une personne lambda en fait. Elle voyait toutes les coutures, les ficelles. Voilà, elle avait des techniques en fait, notamment de fabrication des porte-monnaie où elle les montait sur moule à l'envers. Elles étaient piquées à l'envers, un système hyper compliqué sur de l'agneau plongé. Et quand elle les retournait, on voyait vraiment pas les coutures. C'était incroyable, des produits très luxe. Et quand je lis des romanciers, je vois toujours les coutures. En fait, je vois toujours les coutures. Même sur celui que j'ai préféré lire, James Ellroy, je vois comment il fait, en fait. Je le vois. Je vois les techniques, je vois tout le temps. Et c'est d'ailleurs ce que j'aime. Parce que, étant romancier, quand je lis plus l'écriture que les histoires ou les personnages. C'est ce que je recherche, moi, quand je lis. Je cherche une voix, je cherche. Vous voyez? C'est ce que j'aime. Et quand je lis Harry Cruse, je n'ai jamais vu les coutures. Je n'y arrive pas. C'est le seul auteur au monde, en fait, où je ne vois pas les coutures. Je ne sais pas comment il fait. Il fait des livres à. C'est un génie littéraire qui fait de grands livres très puissants. Des mules et des hommes, c'est sa biographie jusqu'à 6 ans, son autobiographie. C'est un auteur qui écrit sur le sacré principalement, par des histoires un petit peu de. Non, non, pas politique, mais en fait, c'est l'écriture, je trouve ça. En fait, avec rien, il fait des choses folles. Et ça me subjugue parce que je ne sais pas comment il fait. Moi, pour m'entraîner à écrire, quand je fais des ateliers d'écriture, j'ai déjà fait des ateliers d'écriture, la première chose que je fais plagier, en fait. En fait, je fais copier. Il y a des peintres très célèbres qui ont commencé par être copistes, en fait, puis un jour, ils sont devenus peintres. C'est des bons exercices, en fait, d'écriture. Voilà, j'ai fait un atelier d'écriture, j'ai dit, bah, on commence, vous choisissez le nom du un personnage, le lieu, quand est-ce que ça se passait, etc. Et hop, on fait mort à crédit. Les 5 premières lignes, on écrit pareil. Une vie de Maupassant, on écrit pareil. On fait les 5 premières. Et c'est super facile à faire, ça marche très bien et tout le monde peut écrire dans le style de assez rapidement, en fait, en 30 minutes. Je pourrais pas prendre Harry Cruse, c'est impossible, je ne sais pas comment. Je pourrais pas, en fait. Je pourrais même pas arriver à le copier, en fait. Je ne sais pas faire. C'est incroyable. Et c'est des livres vraiment. très puissant et très émouvant, en fait. Alors après, moi, c'est marrant, je ne suis pas très ému quand je lis. Il y a très peu de livres pour lesquels. Moi, ce que j'aime, c'est la sonorité, la façon dont c'est écrit, l'écriture, etc. Il y a très peu de livres. Voilà. J'ai jamais pleuré en lisant. Si, une fois. J'ai pleuré une fois en lisant un livre. C'est La route de Cormac McCarthy. Sinon, j'ai jamais pleuré en lisant. C'est le rapport père-fils, en fait, qui m'a fait pleurer parce que je venais d'être père. Et c'est un livre principalement sur la filiation. Donc, Le Roi du Chaos, qui est un super bouquin, je pense que c'est un bouquin sur ce que c'est d'être artiste, ce que c'est d'être romancier, même si il n'a jamais été critiqué en ce sens-là. Mais c'est en fait c'est un boxeur qui n'a pas de menton, qui a le menton fragile, et donc du coup, pour continuer à faire carrière, comme c'est un boxeur, et il devrait être champion du monde de boxe, enfin, il a une grande carrière devant lui, sauf qu'au cinquième combat, il se fait démonter, et en fait, dès qu'il prend un coup dans le menton, il est KO, en fait. Et donc, du coup, en fait, des soirées sont organisées pour des riches Américains, et devant lesquels il se met KO tout seul, en fait, c'est ça l'histoire du bouquin. C'est un mec qui se met KO, en fait, devant les gens, en fait. C'est incroyable. Et ça correspond assez à ce qu'est la façon. Au job d'écrivain d'Harry Cruz. Il écrit comme ça, en fait. Il met tout en pâture, toute son intimité, tout sur la table, en fait. Rien n'est caché. Enfin, il met tout, en fait. C'est incroyable. Et c'est pour ça génère vraiment des frissons quand on lit, c'est un grand auteur.
Et alors maintenant, c'est le moment du deuxième extrait, François, et on terminera par une dernière question ensuite.
OK. Alors, c'est le chapitre 24, à la page 327, et j'ai pris, comme par hasard, je crois, le personnage d'Hébert. Donc là, c'est Hébert, c'est pas Gérald. C'est à Pierre Bénite et à Oulin. Ah non, oui. Enfin, je et à Paris, en fait. Mais bon, c'est le 15 janvier 2013. Croix, brume, des merdes de pigeons sur le pare-brise. À Pierre Bénite, il y a d'anciennes cités ouvrières. Il y a des Arabes. Il y a une femme voilée et ses trois gosses. Les géographes appellent la zone la banlieue, les politiques appellent la banlieue la ceinture rouge, Hébert appelle la ceinture rouge son terrain de jeu, les mioches de Nassim et Nadja Bouchaki appellent le terrain de jeu d'Hébert chez eux. Sana est la plus petite, elle tient sa mère par la main. Halem et Shemsa marchent devant, cartable sur les épaules, de gentilles écolières modèles. Hébert est sur le siège avant du Merco, il se frotte les mains. L'intrusion chez les Bouchaki s'est faite en fanfare et sans bruit. Il possède les coordonnées d'un compte épargne à la banque postale au nom de Nadjad Bouchaki. Le premier shooting à la sortie de l'école Paul-Éluard a été un fiasco. Hébert se récite le poème. L'été, l'hiver, je t'ai vu, dans ma maison, je t'ai vu, entre mes bras, je t'ai vu, dans mes rêves, je t'ai vu. Hicham à moustache remonte la rue du 8 mai 1945. Il porte ses Ray-Ban en plein hiver. Il est Reda Zouabri, le Reda Z du Luxembourg, le Reda Z de Tel Aviv, le Reda Z qui a rencontré l'imam cintré d'Oulin. Hicham se poste à hauteur de la femme voilée. Hébert appuie sur le déclencheur, il shoote. Il sait ce qu'Hicham dit à Nadjad Bouchaki. Hicham demande son chemin. Hébert mitraille. La femme Bouchaki fait de grands gestes. Halem et Shemsa tracent 10 mètres devant. Hicham les rattrape, il passe une main affectueuse sur la tête d'une gosse. Hébert shoote en rafale. Halem bondit en arrière. Hébert sait ce qu'Hicham dit. Hicham conseille à Halem Bouchaki d'attendre sa maman. Hicham dépasse les deux gamines. Il se tourne, marche à reculons. Il salue Nadjad Bouchaki de la main.
Sur l'avenir, puisque tu parles beaucoup du passé politique, mais finalement, comment tu envisages notre société et plus particulièrement aussi la société politique dans 50 ans, en 2074? Est-ce que tu y vois des améliorations, des axes possibles, des choses qui pourraient être plus positives qu'aujourd'hui ou depuis le début peut-être de la Ve République?
Je crois que j'ai traité le sujet dans Tuer Jupiter, c'est l'objet principal du livre. Bah, je pense qu'en fait. Oui, Marianne?
Oui, non, je voulais, en lien avec la question d'Anthony, il y avait une remarque dans le chat qui était: est-ce que ce n'est pas dangereux de discréditer le monde politique, car cela peut conduire à un anti-parlementarisme, alors qu'il y a encore, j'espère, des hommes politiques sincères? Donc, est-ce que tu peux inclure peut-être la réponse à cette remarque dans ta réponse?
Ouais. Ben, en fait, Je crois qu'on vit les derniers moments de la démocratie représentative et que c'est pas lié, en fait, je l'ai déjà dit, en fait, c'est pas lié du tout au comportement politique de nos représentants. En fait, c'est consubstantiel. En fait, c'est les gens qui mettent les mains dans le cambouis. Alors, on va prendre un exemple super précis. En fait, quand vous êtes un représentant politique, vous devez défendre l'emploi sur votre territoire, dans votre pays. On fabrique beaucoup d'armes en France. En fait, on fabrique énormément d'armes. Donc, en fait, quand vous êtes une femme ou un homme politique, il faut défendre l'industrie de l'armement française parce que ça fait des emplois. Donc, en fait, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a des gens qui le font pour nous, entre guillemets. La question, ce n'est pas que ce soit des pourris ou pas des pourris. Et après, oui, j'ai rencontré durant ma vie politique des gens très bien en politique. Mais après, je pense que pour arriver au sommet du pouvoir, il faut faire des choses viles parce que sinon, en fait, on peut pas accéder au pouvoir. C'est inaccessible à des gens au cœur totalement pur. Donc ça, c'est le premier point. Et après, je ne trouve pas que ce soit trop grave de le dénoncer, tout simplement parce que je crois qu'on assiste à l'effondrement de la démocratie représentative, dont je l'ai traité dans Tuer Jupiter, non pas à cause du comportement de nos représentants politiques, mais à cause de la révolution technologique qu'on est en train de vivre. Voilà. On est en train de vivre une révolution technologique qui sape toutes les organisations pyramidales de pouvoir. C'est-à-dire qu'avant, dans une entreprise, il fallait des cadres pour transmettre le message de la direction. Maintenant, la direction, Elon Musk, qui peut faire un tweet, enfin, sur X à tous ses salariés ou un mail à tous ses salariés, il peut en virer 2500 en une seconde. C'est comme ça que ça fonctionne. Et en politique, pareil, en fait, on a des intermédiaires, des députés, etc. Alors qu'en fait, le ministre de l'Éducation nationale, s'il veut parler aux parents d'élèves d'un coup, on pourrait très bien imaginer une appli où le ministre de l'Éducation nationale, il envoie un message à tous les parents d'élèves. Donc en fait, on vit une révolution technologique qui est en train de, en fait, qui va saborder toutes les organisations pyramidales de pouvoir et donc la démocratie représentative. Donc oui, je pense qu'il y a une solution. En fait, il faut inventer le système politique d'après. Alors pour l'instant, la démocratie représentative, elle a été inventée, elle n'est pas là depuis tout temps. Donc il y a des gens qui ont réfléchi à un moment. Il y a eu, enfin, je schématise, mais bon. Bref, il y a eu les Lumières, la Révolution française et la démocratie représentative est arrivée chez nous. Et donc je pense qu'il faut inventer le système politique d'après. Et parce que tout simplement, je ne comprends pas comment un système peut fonctionner. Les gens peuvent s'exprimer toutes les secondes sur n'importe quel sujet sur les réseaux sociaux, tout le temps. Et on s'imagine qu'on peut avoir un système politique dans lequel ils vont s'exprimer tous les 5 ans. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut plus fonctionner comme ça. On ne peut pas aller voter tous les 5 ans pour quelque chose. Ça ne peut plus, en fait. Ça ne tiendra pas. Et je pense que c'est pour ça que ça tangue aussi fortement en ce moment. Ça tangue aussi fortement parce qu'en fait, ça ne peut plus fonctionner comme ça. C'est impossible. Il faut créer le système politique d'après. Et il y a des gens qui veulent changer de système, ils appellent ça la 6e République. Oui, mais ça sera toujours la démocratie représentative. Je pense que la démocratie représentative est périmée. Elle fonctionnera plus elle peut plus fonctionner face à la révolution technologique qu'on est en train de vivre. Et le souci qu'il y a, c'est que, on le voit d'ailleurs, en fait, ces nouvelles technologies bénéficient souvent au populisme, quoi. Parce qu'en fait, c'est soit on a un niveau culturel et éducatif de masse très, très, très élevé, c'est-à-dire qu'il faut tout miser sur l'éducation, etc. Soit, en fait, c'est des outils qui sont très adaptés au gourou, en fait, quoi. C'est la société du gourou, c'est un leader qui envoie des faux messages, n'importe quoi, sur WhatsApp, voilà, qui s'adresse à ses fans, à ses followers, et puis après, qui est élu président du Brésil ou qui va fêter sa victoire en allumant une tronçonneuse en Argentine. Enfin, on voit en fait que. Ou Donald Trump, quoi. Donc, le souci qu'il y a, c'est que soit on va vers la société du gourou, là, avec des populismes hyper forts, soit peut-être qu'après des crises, le système d'après la démocratie représentative sera inventé, mais c'est pas non plus. Les gens sont toujours assez prisonniers d'eux-mêmes, en fait. La démocratie représentative, c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie sur Terre, quoi. Peut-être qu'un jour, elle disparaîtra et qu'on inventera autre chose, plus adaptée à la réalité dans laquelle elle vit. Et peut-être que l'humain aussi disparaîtra. Je le dis souvent, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus conscience de ça, mais en fait, nous aussi, on va disparaître. C'est pas grave. On disparaîtra un jour tous. C'est mécanique.
Bon, allez, on va aller boire un grand spritz. Avant de quitter cette terre, merci François.
Non, mais je ne parlais pas de maintenant. Hein. Je
non,
parlais
pas
de...
maintenant.
Ah, on est d'accord.
On est d'accord, on est d'accord.
Ouais, dans 2 milliards d'années, oui, enfin, ce n'est pas grave. Faut... Non, mais je dis ça notamment parce que je vois qu'on vit un moment d'angoisse collective incroyable. On est sous psychose tout le temps, là. C'est dingue. C'est le... En fait, on vit là-dedans parce que c'est un peu l'objet du livre aussi. Au-delà de la boutade, c'est qu'on ne sait plus trop ce qui est réel, ce qui ne l'est plus. C'est plutôt ce qui est. On est dans le monde de la post-vérité. Il n'y a plus de vérité. On ne sait plus rien sur rien. C'est très difficile de se faire une opinion désormais. C'est hyper dur, en fait. On pensait que la société d'information totale allait permettre à tout le monde d'être le mieux informé possible. Et on se rend compte que c'est l'inverse, en fait. Ça fonctionnait presque mieux quand il y avait des leaders d'opinion, des filtres, etc. Et maintenant, en fait, les gens. Donc, du coup. On ne sait plus. Le Covid, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas vraiment combien il y a eu de morts. On ne sait pas. Il y a des gens, regardez sur le vaccin, les anti-vax. En fait, on ne sait plus rien sur rien. Donc, on vit dans un espèce de moment hyper, hyper angoissant. Et donc, bon livre, des fois, c'est plus reposant. Ça calme, même si c'est des livres comme les miens. Non, mais c'est vrai. Le livre, en fait, on est sur du temps plus cool, en fait. On a un rapport au temps qui est très, très différent. Parce que là, on vit sinon dans cette espèce de tourbillon de data qui rend déjà, en tout cas mes enfants addicts à 8 heures par jour de téléphone, mais qui fait pas du bien à la tête.
Merci infiniment à tous les deux, François et Marianne. Je sais pas si tu veux rajouter quelque
merci
chose.
Merci à vous Marianne. Tous.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci
bonne
à tous.
Bonne soirée à tous alors.
Merci.
Et oui, on se retrouve à Quai du Polar pour ceux qui y seront. Et sinon, pour ceux qui seront là également le 13 avril, une semaine plus tard, on fera la soirée de Lille à Paris, comme tous les ans. Et vous êtes évidemment les bienvenus. J'enverrai les invitations très prochainement. Merci à tous.
Merci
à
beaucoup.
Bientôt.
Merci à tout le monde.
Au revoir.
Merci à tout le monde. Et
merci
vivez
beaucoup.
La résistance aux matériaux.
Au revoir.